jeunesse.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Univox, nous sommes cette semaine à Bordeaux. Depuis le 1er janvier 2014, les universités Bordeaux 1, 2 et 4 ont fusionné. Le regroupement a donné naissance à l'université de Bordeaux. Par ailleurs, Bordeaux 3, qui n'a pas souhaité fusionner, est devenue l'université Bordeaux-Montaigne. En février dernier, Radio Campus Bordeaux a rencontré Manuel Thunon de Lara, le nouveau président de l'université de Bordeaux. Si administrativement les changements liés à cette fusion sont importants, qu'en est-il pour les étudiants ?
Pour les étudiants, ça change beaucoup de choses aussi. Parce que d'abord, l'université de Bordeaux, ça devient une des toutes premières universités françaises. Ça devient une université qui est lisible au plan international et dont le diplôme change. Et donc être diplômé de l'université de Bordeaux, pour un étudiant, ça va avoir, et on le souhaite, un impact sur son insertion professionnelle, sur un sentiment d'appartenance à un établissement, sur la façon aussi dont le diplôme permet de trouver un métier en France, à l'étranger. Là, c'est quelque chose qui manque souvent à l'université. Et ça me semble un point essentiel. Ensuite, plus concrètement pour les étudiants, l'offre de formation va changer. On va avoir un nouveau plan, la quinquennale, où évidemment l'offre de formation ne peut pas être celle des établissements juxtaposés. En particulier, il y a des dimensions multidisciplinaires. C'était l'objectif de cette université, d'avoir des formations qui justement correspondent à des besoins qui sont devenus multidisciplinaires. Être formé uniquement en sciences, uniquement en santé, uniquement en droit, sans avoir des notions de l'un ou de l'autre, c'est aujourd'hui devenu un handicap. Et si vous êtes un spécialiste du laser, il faut que vous puissiez avoir des compétences en langue, des compétences peut-être en économie, en marketing, et peut-être aussi des compétences dans l'environnement où vous travaillerez. Les gens sont mobiles, exercer une profession en Asie du Sud-Est ou en Europe, ça n'est pas la même chose, il faut aussi avoir cette culture-là. Et les universités, ça sert à ça. Et les grandes universités, au plan international, elles sont comme ça, multidisciplinaires. Et ça me semble être très important pour les étudiants. Ensuite, il y a des dispositions plus pratiques, plus terre-à-terre. On veut que l'université soit quelque chose de très décentralisé. Donc sur les bureaux de vie étudiants, sur des conseils de campus où il y aura une place spécifique pour les étudiants, avec des vice-présidents étudiants qui auront un rôle à jouer, plus important que celui qu'ils n'avaient auparavant. Moi, à titre personnel et dans mon expérience à l'université Bordeaux-Ségalène, j'ai toujours eu une relation très positive et responsable avec les étudiants, avec qui on a eu une relation constructive, de projet, de responsabilité. Je pense que les étudiants doivent jouer un autre rôle dans les projets mêmes de l'université. Je crois que c'est une place nouvelle à leur faire. Et quand là aussi on se réfère aux universités étrangères, la place de l'étudiant est un petit peu différente. Bon, après, on a l'ambition d'avoir des services pédagogiques, hein. La mission d'appui à la pédagogie qui devrait nous permettre aussi d'avoir une offre de formation qui soit mieux encadrée, qui permette de tirer parti les uns des autres, d'avoir dans la méthode pédagogique, dans l'évaluation, une approche qui soit plus transversale mais qui soit plus ambitieuse. Par exemple, je vous donne un exemple, les étudiants en médecine, il se trouve qu'ils vont avoir des examens pour l'internat sur des tablettes. Donc la santé s'équipe avec des tablettes, ils passent des examens sur des tablettes. Donc il y a des constructions pédagogiques qui sont différentes. Pourquoi voulez-vous que les étudiants de droit, de lettres ou de sciences ne bénéficient pas de ces modalités d'apprentissage ? Alors peut-être que ça ne convient pas toujours, peut-être qu'il y a des choses à adapter. Et à l'inverse, il y a beaucoup à faire et à s'enrichir les uns des autres. Donc c'est l'esprit de la construction de l'université. Les structures qui n'ont pas rallié les universités de Bordeaux, il faut appeler un chat un chat, ouais. Il y a l'université Bordeaux 3 et il y a, d'une manière générale, les écoles d'ingénieurs ou l'IEP. Donc, les situations sont très différentes. Que ce soit clair, hier, aujourd'hui, demain, la main a toujours été tendue vers les autres. Elle l'est et elle le sera. Donc la porte est ouverte. Moi, je considère que c'est une anomalie que le Bordeaux 3 n'ait pas rejoint la fusion, mais on respecte le choix de la communauté. Néanmoins, je trouve que non seulement c'est une anomalie, mais je pense que c'est quelque chose qui pénalise Bordeaux 3 elle-même. Maintenant, les situations sont différentes. Les écoles d'ingénieurs, elles étaient souvent rattachées à nos établissements. Et c'est vrai que fusionner, c'était difficile. Parce que fusionner avec la loi qui avait changé, ça n'assurait pas la pérennité des structures où il fallait avoir des montages qui n'étaient pas faciles à faire. Et avec le ministère, on n'a pas vu cette possibilité. Donc aujourd'hui, la nouvelle loi permet d'avoir des associations, même nous incite à avoir avec les anciens établissements rattachés des associations. Ces écoles seront des membres associés de ces instituts de l'Université de Bordeaux et auront les avantages et toutes les collaborations que l'on peut avoir au meilleur niveau avec l'Université de Bordeaux. On partage de l'enseignement, on partage de la recherche, on partage des projets stratégiques, on partage un campus, on partage des installations universitaires, etc. Ce qui ralentissait d'une certaine façon les projets, et de mon point de vue, c'était un système comme le PRESS, où chaque décision doit faire l'aller-retour entre l'établissement, le presse, les uns, les autres. Bon, c'est une gouvernance compliquée. Aujourd'hui, la distribution des rôles est claire. Sur les services interuniversitaires, on en a une grande partie en charge. Ils sont pour la communauté et à nous de les faire fonctionner comme on le faisait auparavant, avec peut-être un peu plus d'ambition. Sur la formation et la recherche, on a le contrat devant nous, donc la cohabilitation, co-accréditation de la nouvelle offre de formation doit se faire dans ce contexte-là. Pour ce qui est de tous les projets financés par les investissements d'avenir, on est en train de faire un accord de consortium pour que ça puisse se dérouler aussi, même si c'est l'Université de Bordeaux qui porte, avec l'ensemble des partenaires. Voilà. Maintenant, la situation de l'Université Bordeaux 3 est différente, parce que c'est une université, ce n'est pas une école d'ingénieurs, donc une université de plein exercice avec son établissement. Donc nous, on appelle de nos voeux, on a le même type de relation, donc même s'il pouvait y avoir une association, moi j'aurais été favorable à une association. Si Bordeaux 3 souhaite un autre type de convention, on fera la convention qui convient à cette université. Il n'y a pas de... Voilà, on a beaucoup de choses à faire et il ne faut pas que les uns ou les autres soient pénalisés et surtout pas que les étudiants soient pénalisés. C'est pour moi la chose la plus importante.
Univox.
4 mois après la création de l'Université de Bordeaux, des dysfonctionnements sont apparus, notamment ce qui concerne le paiement des vacataires chargés des travaux dirigés. Ils sont actuellement dans une situation d'urgence financière. Pour évoquer ce dossier, Léo Benelbaz de Radio Campus Bordeaux a reçu il y a quelques jours Lucas Bento de Carvalho, doctorant en droit social, et Marion Fauvel, étudiante en première année de droit.
Les doctorants ne sont pas payés, mais on a envie d'en savoir un peu plus. C'est vrai que ça reste un peu mystérieux, les facs ne communiquent pas du tout là-dessus.
Alors les doctorants ne sont pas payés, mais les chargés de travaux dirigés, qui ne sont pas nécessairement des doctorants, ne sont pas payés non plus. Il faut savoir que le système de recrutement des chargés d'enseignement est assez particulier. Il y a des doctorants sous contrat avec l'université qui font des TD. Dans ce cadre-là, ils sont payés de façon mensuelle, puisque le complément qui correspond à la réalisation des travaux dirigés est annexé au traitement mensuel. Donc pour eux, il n'y a pas de grande difficulté. En revanche, pour toutes les personnes qui sont embauchées sous le régime de la vacation, il y avait jusqu'à présent une rémunération qui s'étalait sur toute l'année et qui comprenait 4 dates de rémunération. C'est-à-dire que vous étiez payé 4 fois dans l'année. Ça, c'était dans la période, à en croire certaines personnes, bénies. On peut pas, à mon avis, je pense que c'est assez difficile de considérer qu'en étant payé 4 fois dans l'année, on peut vivre dignement. Mais c'était ce qui prévalait jusqu'à présent. Ça n'allait pas s'imposer des difficultés. Là où vraiment on a commencé à trouver la situation inacceptable, c'est lorsqu'avec la mise en place de l'Université de Bordeaux, ce paiement 4 fois dans l'année est passé à 1 fois ou 2 fois dans l'année. En tout état de cause, des personnes qui ont commencé à travailler à l'université dès la fin du mois de septembre, au mois de février, n'avaient toujours pas été payées. Donc il a fallu qu'on se mobilise pour obtenir le paiement de ces vacataires. qui pour certains accusaient un retard de paiement de plusieurs milliers d'euros. On ne parle pas de petites sommes. Ça, c'est quand même important de le préciser, puisque dans les vacataires, il y a aussi deux types de vacataires. Il y a des personnes qui ont une activité professionnelle annexe. Donc on peut imaginer que ces personnes-là disposent d'un revenu, même s'il est faible, pour faire face aux difficultés du quotidien. En revanche, pour plusieurs personnes, ce sont les vacataires ATV. Eux, ils n'ont que l'activité d'enseignement comme source de revenus. Donc la situation aujourd'hui, c'est que les situations les plus urgentes, identifiées comme telles par la présidence de l'université, ont fait l'objet d'un traitement. Ces personnes-là ont été payées dans le cadre d'une avance sur salaire. Donc je vous laisse un peu réfléchir sur l'ironie du terme pour un travail qui a été effectué plusieurs mois en amont. La question, c'est que qu'est-ce qui va se passer pour les activités qui sont liées au second semestre ? On a absolument aucune précision là-dessus. Les personnes ont été payées dans le cadre d'une avance sur salaire. On a appris ensuite qu'il y aurait des retards de paiement ou en tout cas des précisions sur le calendrier dans le cadre de la newsletter de l'Université de Bordeaux. Ensuite, sur les vacations qui vont être effectuées pour le second semestre, on n'a aucune visibilité. Certains évoquent des périodes assez rapprochées. Assez rapprochées, ça veut dire juillet-août. Là encore, on est toujours dans 2-3 mois de décalage. Donc il faut aussi expliquer aux bailleurs, aux fournisseurs de gaz et d'électricité qu'on les paye dans les 3 mois. C'est pas, évidemment pas envisageable. Et certains même avance des délais beaucoup plus tardifs, donc septembre-octobre. Toujours est-il que c'est le flou le plus total, et c'est absolument pas satisfaisant pour des personnes qui ont l'enseignement comme unique source de revenus.
Et ça fait qu'empirer, alors apparemment, voilà, c'est à chaque fois ils en rajoutent dans
les. Ça fait qu'empirer, puisque bon, ça c'est l'aspect rémunération, c'est une des problématiques les plus importantes qui anime notre mouvement aujourd'hui, mais ensuite il y a aussi la remise en cause des dispositifs d'exonération des frais d'inscription qui étaient prévus sur la base de critères sociaux et sur la base d'un critère d'investissement à l'université. Le critère de l'investissement en particulier, c'était l'idée qu'à partir du moment où on travaille pour l'université, il y avait la possibilité d'être exonéré du frais d'inscription pour un diplôme que l'on prépare dans le cadre d'une université. Alors, je ne rentre même pas dans le débat sur la question de savoir quelles sont les contreparties qu'on a à ces frais d'inscription, parce que quand on est étudiant, on peut le comprendre, il y a des cours magistraux, des formations, des travaux dirigés, surtout dans la mesure où ceux qui les font ne sont pas très bien payés.
Pas du tout.
En revanche, pour les doctorants, on se demande bien quelles sont les contreparties. Si c'est, à part quelques petites formations d'anglais tout au long de l'année, enfin c'est peut-être pour porter nos revendications dans la langue de Shakespeare, ça serait peut-être utile, mais enfin, dans notre activité quotidienne de recherche et d'enseignement, ça reste quand même très limité. Donc ces frais d'inscription, à partir de l'année prochaine, eh bien, tout le monde va devoir les payer. Là-dessus, il n'y a eu aucune communication. Faut savoir que cette pratique, elle existe déjà dans d'autres universités. Donc on n'est pas en train de demander quelque chose qui serait impossible, qui serait illégal. On demande juste un maintien du dispositif existant dans le cadre de l'Université de Bordeaux 4. Quand on voit les conditions de rémunération qui sont aujourd'hui les nôtres, ça paraît pas non plus la mer à boire pour les ATV, les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Ce sont des personnes qui font ou pas une thèse et qui, dans le même temps, assurent la charge de séances de travaux dirigés avec les étudiants. Donc si on prend l'exemple des ATV qui sont dans le même temps inscrits en doctorat, eux vont devoir payer des frais d'inscription à hauteur, si on compte la sécurité sociale, ça fait à peu près 500 ou 600 euros. Ce sont des personnes qui, lorsque l'on ramène le volume total de leurs activités à la rémunération qui est la leur, ce sont des personnes qui travaillent pour à peu près 4,97 euros brut de l'heure. Effectivement, il y a un taux horaire, on a un taux horaire qui est un peu plus d'une quarantaine d'euros. En réalité, ça s'appelle, c'est une heure équivalente TD. Ça veut dire que vous êtes payé 40 euros pour faire votre heure dans les travaux dirigés. Ces travaux dirigés, il faut les préparer. Les copies qui sont adossées aux travaux dirigés, il faut les corriger. Les examens blancs qui sont prévus dans le cadre des travaux dirigés, il faut également les corriger. Les jurys d'examen, il faut les faire passer. Les délibérations, il faut assister. Les examens, il faut les surveiller. Bref, vous avez tout un tas d'activités annexes qui, lorsqu'on fait le calcul, et je parle d'un calcul à minima, c'est-à-dire on relève une copie par étudiant ou on fait un examen blanc. La plupart du temps, les chargés de cours imposent qu'on fasse un examen blanc et qu'on corrige une voire deux copies. Donc on arrive à des taux de 4,90 euros brut de l'heure pour des personnes qui ont un Master 2. Et encore, d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi je parle de la qualification, c'est en dessous du SMIC. Donc on ne vient pas nous dire qu'on est dans une situation privilégiée et que la suppression des frais d'inscription, ça serait quelque chose qui viendrait rendre encore plus facile notre quotidien à l'université. Il y a vraiment derrière des contreparties qui sont dérisoires. Encore une fois, on ne demande vraiment pas quelque chose d'impossible. Légalement, c'est tout à fait possible et socialement, c'est plus que nécessaire.
En dehors du fait d'être payé, évidemment.
En dehors du fait d'être payé, oui, oui, il y a aussi, on peut aussi revenir sur, ne serait-ce que le condition, bon, ça c'est peut-être un débat un peu juridique, mais imaginez que toutes ces personnes-là, tous les vacataires, sont recrutés sous le régime de la vacation. Qu'est-ce que c'est la vacation ? C'est encore pire que le CDD en termes de précarité. Ça veut dire que c'est même pas un contrat de travail. On signe même pas de contrat de travail. Ça n'ouvre pas droit au chômage, ça n'ouvre pas droit à la retraite. C'est payé à la vacation. Alors la vacation, c'est magique. Ça veut dire que vous n'êtes pas payé mensuellement, vous êtes payé quand on estime que vous avez accompli la vacation. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'université nous mette en situation de prouver que l'on a accompli notre vacation. C'est très simple. Je sors de ma séance de travaux dirigés, on a travaillé avec les étudiants, je sors, je pointe, ma vacation doit être payée le mois prochain. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On nous recense 2, 3, 4 fois par an, dans le meilleur des cas. Et comment ça se passe ? Au départ, il s'agit juste d'une attestation sur l'honneur. Personne vient dans les TD vérifier qu'on a effectivement accompli notre tâche. Donc on a vraiment du mal à comprendre comment se justifie aujourd'hui cette chaîne de paiement qui est si longue, qui est si complexe, alors que in fine, tout repose sur notre propre déclaration. Surtout que lorsque les avances de salaire ont été faites assez récemment, ici, à la fin mars, pour certains d'entre nous, toute la chaîne de vérification a été opérée. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas, sur le long terme, à reproduire une vérification qui a été réalisée et bien réalisée au cours d'un seul mois? Alors il y a deux possibilités. Soit le logiciel est trop compliqué, mais ça, c'est pas notre problème. Je veux dire, on réussit quand même à faire des exploits dans ce pays et dans ce monde. On va quand même pas nous opposer un logiciel pour justifier le fait qu'on soit pas payé. Enfin, ça n'a aucun sens. Après, certains évoquent dans l'équipe présidentielle le fait que les personnels font preuve de mauvaise volonté dans l'appropriation du nouveau logiciel. Je pense que ces personnes-là apprécieront, elles aussi, qui sont soumises à des contraintes budgétaires, qui sont recrutées par CDD, CDD pour lequel n'ont aucune perspective de renouvellement. On leur apprend l'avant-veille de l'échéance du CDD, on leur dira si ou non elles sont reconduites. Ensuite, il y a une autre possibilité, soit le logiciel fonctionne, mais dans ce cas-là, il n'y a pas assez de personnel pour se l'approprier. Eh bien, embauchons des gens, recrutons des personnes. On nous parle d'initiatives d'excellence. Peut-être que ça serait une excellente initiative de payer correctement les agents qui travaillent à l'université. Dans le même temps, je ne veux pas polémiquer inutilement, mais on voit fleurir les encarts publicitaires à la gloire de l'université de Bordeaux, bon, dans un style graphique qui laisse à désirer. Enfin, en tout cas, c'est les amateurs de films qui parodient les régimes totalitaires apprécieront. C'est assez rigolo, certaines fois. Donc, comment justifier qu'on dépense autant d'argent dans de la publicité, peut-être nécessaire, et que dans le même temps, on ne paye pas les agents qui contribuent au fonctionnement de l'université? Il faut savoir que sans nous, rien ne marche. On corrige les copies, on fait les enseignants, au même titre que les chargés de cours, bien entendu. Donc il y a des priorités qui nous paraissent très discutables, il y a un traitement du dossier qui nous paraît aussi plus que des fois irrespectueux dans la façon dont les choses sont menées. On apprend des choses par voie de presse, il a fallu qu'on lise cet excellent article d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller lire sur Rue 89, le burn-out des universités, point d'interrogation, où on apprend par cet article que la question de l'exonération des frais d'inscription sera renégociée en fonction des situations particulières des doctorants sur la base d'un critère social, mais tout en ayant à cœur que le doctorat est un diplôme, le meilleur diplôme d'université qu'il faut protéger. Bon, ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord, mais il y a quand même des gros ratés en matière de communication. C'est dommage, avec un tel budget communication, on aurait pu s'attendre à ce qu'on soit très vite contacté, mais bon, il faut croire que peut-être qu'il y a des sous-titres sous les affiches de l'Université de Bordeaux, mais en tout cas, on ne les a pas vus jusqu'à présent.
À l'époque où les chargés de TD et les doctorants étaient payés, donc ces versements étaient 4 fois par an, c'était combien à chaque fois?
C'était combien, vous voulez dire le salaire?
Le salaire, oui.
Ça dépend du nombre de groupes de TD que vous avez.
Et toi, par exemple, tu touchais combien?
Alors moi, j'étais contrat doctoral. J'avais une rémunération globale. Donc entre mon salaire de contrat doctoral et la rémunération qui correspond aux travaux dirigés, je pense qu'on était à peu près sur du 400-500 euros par mois. Ça, moi, je m'en plains pas. Hein. Je vous dis, un contrat doctoral, ça gagne à peu près 1630 euros par mois. Pour des étudiants qui, avant, ont dû travailler, ou des étudiants qui ont été boursiers, ou même des étudiants qui avaient la chance de pouvoir compter sur leurs proches pour financer leurs études, c'est très bien. C'est très bien, 1600 euros par mois, ça va, on vit bien, on est content. On n'oublie pas qu'être payé pour faire des études, être payé pour faire une thèse, c'est un luxe énorme. On a des conditions de travail, ça, on pourra en parler, on n'a pas de bureau, mais enfin, tout au moins, on a la liberté de s'organiser comme on veut. Donc, on peut, si on veut ou non, venir à la fac pour constater qu'on n'a pas de place pour travailler. Mais enfin, il y a quand même une liberté dans notre activité qui est appréciable. On aime ce qu'on fait, on aime chercher, on aime enseigner, on aime bien nos étudiants, on aime bien cette activité-là, mais au bout d'un moment, il ne faut pas pousser.
Et aujourd'hui, donc, tu ne touches plus rien?
Si, moi oui, parce que moi je suis contractualisé à l'université. Voilà, moi je suis chanceux, moi je suis payé en tant que contradataire à peu près 1230 euros net par mois, et j'ai un taux horaire pour mes TD qui est à peu près de 8,60 € brut, ce qui est magnifique, et j'ai la chance, c'est plus que le SMIC. C'est deux fois plus que mes collègues qui sont sous notre statut. Sachant que, enfin, peut-être Marion vous le dira, mais enfin, entre un chargé de TD vacataire et un chargé de TD contrat doctoral, je ne pense pas que le fait de percevoir une rémunération, ça confère à la personne des qualités pédagogiques supérieures à l'autre. Donc, en plus de taux de rémunération qui sont scandaleusement faibles pour les ATV, il y a une inégalité de traitement qui, là, se justifie juste par le statut, autant dire par pas grand-chose.
Vous avez les étudiants avec vous, hein, Marion, tu les représentes. Il y a beaucoup d'étudiants qui soutiennent ces doctorants et ces chargés de TD?
Oui, il y en a on a beaucoup, vraiment, d'ailleurs il n'y a pas longtemps on a fait un rassemblement, il y a pas mal de gens qui sont venus pour les soutenir, parce que voilà, au-delà du chargé de TEDO, on voit quand même l'humain, et on voit aussi leur travail durant les séances de TD, on sait qu'ils se donnent vraiment à fond pour nous, donc on trouve ça vraiment aberrant de voir aussi peu d'humanisme et... de considération de la part de l'université, en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous faites pour vous mobiliser ?
On a fait un rassemblement. Bon, voilà, c'était une petite manifestation. On a aussi créé un groupe sur Facebook. On est venu à la radio aussi. Donc, on essaye vraiment d'en parler au plus d'étudiants possible pour que vraiment ils prennent conscience de la situation et que leur charge de TD, voilà, c'est des êtres humains avant tout et ils ont besoin d'argent, quoi, pour se nourrir, pour vivre.
Fin. Alors quand on voit une situation pareille, ça semble complètement surréaliste que les universités de Bordeaux ne fassent rien pour redresser la barre.
On a invoqué d'abord l'effet de surprise de la part de l'université, mais on connaissait pas votre situation, comment c'est possible? Bon, on veut bien être conciliant au départ et dire effectivement, peut-être que vous découvrez que dans le cadre de la fusion des universités, il y a certaines pratiques qui vous avaient échappé. On a aussi du mal à le croire, vu que dans l'actuelle équipe présidentielle, il y a des personnes qui, auparavant, avaient des responsabilités quand même très conséquentes au sein de l'ancienne université de Bordeaux 4. Il y avait le président et l'un des vice-présidents, donc quand même des personnes qui sont au courant et qui... du temps de la présidence Bordeaux 4, moi j'étais chargé de mission avec ces personnes-là, avaient montré une oreille attentive à nos problèmes. Donc, s'il y a surprise de leur côté, il y a également une grosse déception de notre part à constater que les mêmes personnes qui, hier, se montraient sensibles à notre condition, aujourd'hui, en intégrant une nouvelle équipe de la présidence, enfin présidentielle au niveau de l'Université de Bordeaux, non seulement ne cherchent même pas à maintenir les dispositifs préexistants, mais en plus, viennent nous dire que ce n'est pas tenable, voyons, soyez réalistes, il y a des contraintes budgétaires. On entend bien qu'il y a des contraintes budgétaires, mais encore une fois, c'est pas notre problème. On ne demande pas la lune, on demande à être payé. On demande à avoir un bureau pour travailler. On demande à ce qu'on prenne en considération le fait que nos thèses se font en moyenne en 5 ans, en sciences humaines et sociales. Là aussi, j'insiste, il y a un particularisme. L'université de Bordeaux est pluridisciplinaire. Il y a des personnes qui effectuent des thèses en sciences dites dures, en médecine, par exemple, en technologie, enfin en physique, en chimie, Bordeaux 1, Bordeaux 2. Et il y a nous, les sciences humaines et sociales, on n'est pas pareil, mais on n'est pas plus intelligent ou plus bête, c'est juste que l'activité de recherche est différente. Et là-dessus, l'uniformité qui se traduit dans la convention des thèses, en tout cas dans les engagements de l'université en fonction du doctorat, elle est inquiétante. L'uniformité, elle semble jeter un peu vite par la fenêtre les spécificités du doctorant SHS. Et ça nous préoccupe. Une thèse en moyenne, en droit, en sciences économiques et sociales, en psychologie également, c'est 5 ans. Donc nous, quand on nous dit « vous avez des financements sur la base de 3 ans », qu'est-ce qu'on fait après ? Alors on va nous dire peut-être « vous débrouillez, voyez, vous poursuivez votre activité de recherche à Pôle emploi enfin, ». C'est toujours la recherche, mais à mon avis, ça ne me semble pas que ça soit la mission de Pôle emploi de rémunérer des personnes qui sont encore en activité de recherche. Bien qu'ayant cotisé, nous avons droit aux bénéfices de ces allocations, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc il y a une grosse inquiétude de notre part là-dessus. Les 3 ans, ça nous paraît très difficile à tenir. Et qu'est-ce qu'on nous dit en face ? Oui, vous inquiétez pas, on tiendra compte de vos spécificités. Il n'y a aucun engagement clair là-dessus. Donc c'est assez compliqué. On peut comprendre qu'il y a des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'Université de Bordeaux. En aucun cas, on ne saurait jouer le rôle des variables d'ajustement. D'abord, vous payez vos employés, vous payez vos salariés. Après, vous voyez pour le reste. Mais ça, il me semble que c'est la base quand même de rémunérer son personnel.
Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ?
Alors, comme on est des gens bien élevés, comme on est cordiaux et comme on a le souci du respect des dispositions légales, on a convoqué des assemblées générales, on s'est mobilisé, on a adressé plusieurs courriers et communiqués à l'Université de Bordeaux. On a été reçus en délégation assez rapidement lors de notre première mobilisation. Il s'en est suivi des propositions dans le sens de la constitution d'un groupe de travail. Donc le groupe de travail, c'est bien. Le groupe de travail, c'est quand même chronophage. Le groupe de travail, si on ne définit pas son objet, ça peut être perçu comme une technique d'anesthésie. Et je ne dis pas ça uniquement parce que la présidence a une spécialité en matière médicale. Mais on s'en méfie beaucoup. Donc on va participer à ce groupe de travail parce que certaines de nos revendications ne peuvent être satisfaites que en mettant en place un dispositif sur le moyen et sur le long terme. Mais si vous voulez, on y va quand même avec une forte suspicion, ne serait-ce que parce qu'il y avait des engagements de la présidence sur la composition de ce groupe de travail qui ne sont pas respectés. Au départ, on devait être relativement nombreux. Imaginez que c'est quand même pas facile de négocier, de discuter lorsqu'en face de vous, vous avez des représentants de l'équipe présidentielle. Nous, on est que, entre guillemets, des doctorants. Pour certains, on caresse l'espoir d'avoir une petite carrière à l'université, enfin en tout cas de poursuivre sur la voie de l'enseignement. Bon, donc on fait quand même, le rapport de force n'est pas toujours à notre avantage. Donc sur la composition de ce groupe de travail, rien du tout. On nous a répondu qu'il y aurait quelques élus. Donc si on fait le compte, on est quasiment à même pas un tiers de la représentation qui était initialement prévue. Ensuite, sur l'objet de ce groupe de travail, nous, on est toujours ouvert au dialogue, mais ce qu'on veut, c'est le remplacement des personnes qui sont aujourd'hui recrutées sous le régime de la vacation. On veut des contrats à durée déterminée pour les agents qui le demanderaient. S'il y en a qui ne le demandent pas, c'est tout à fait leur droit. Mais pour les agents qui le demanderaient, on veut des contrats de vacation. Et ça, légalement, ça se tient. Il ne s'agit pas juste de réclamer, encore une fois, quelque chose d'impossible et d'excessif. C'est la loi. Les vacataires, normalement, on recrute des vacataires, je vais très rapidement, on recrute des vacataires pour exercer des missions ponctuelles dans l'université, enfin, dans l'enseignement supérieur ou ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez recruter un vacataire pour faire des traductions dans un commissariat, ce que vous voulez. Nous, on n'exécute pas des tâches ponctuelles. On participe au fonctionnement normal et continu de l'université. À ce titre, on ne devrait pas nous recruter sous le régime de la vacation. Pas plus que vous ne pouvez recruter des salariés dans le privé, en CDD, pour le fonctionnement normal de votre entreprise. C'est la même chose. Donc on demande ça. On demande aussi des espaces de travail dignes de ce nom. On demande que soit reconnue la spécificité du doctorant à SHS. On demande aussi que soit pris en compte la réalisation de nos activités annexes. Il y avait une convention des agents non titulaires qui avait été conclue dans le cadre de Bordeaux 4 où on répertoriait ceux qui relevaient de notre service et ceux qui sortaient de ce service-là. Ces tâches-là faisaient l'objet d'une rémunération complémentaire. Aujourd'hui, le dispositif actuel doit être revu. On n'a pas de perspective sur la façon dont ces tâches vont être rémunérées. Et ensuite, bien sûr, on demande un dispositif, mais c'est lié aussi avec le régime juridique du recrutement des agents de l'université. On demande un dispositif qui permet, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir une mensualisation de leur rémunération. Enfin, ça paraît normal. Donc, jusqu'à présent, l'université a mis un peu de temps avant de nous répondre. Hier, on avait une assemblée générale et bizarrement, juste un jour avant, peut-être même quelques heures avant, on a eu enfin une réponse de l'université. Ça n'empêche pas qu'on a voté la grève parce que la réponse n'était pas satisfaisante. Alors, sur les modalités, nous en discuterons entre nous, mais un préavis de grève a été déposé et des modalités d'action vont être opérées. On va vraiment voir les modalités entre nous. L'objectif, c'est pas non plus de pénaliser les étudiants. Donc, on a un service à leur rendre. Il y a des examens qui se préparent. Il y a des dossiers qui doivent être envoyés dans d'autres universités. Donc, on tient compte de cela. Après, évidemment, la grève, ça veut dire cessation du travail. Donc, en totalité, sur une durée plus ou moins longue, ça, on pourra pas faire l'économie. Mais ça, c'est pas faute d'avoir invité l'université à dialoguer plusieurs fois sans aucune réponse. Donc encore une fois, on ne sort pas la grève de n'importe où. Il y avait à chaque fois des menaces qui étaient faites en ce sens, et comme on n'a pas eu de réponse satisfaisante, on se demande si c'est pas finalement, et on en est convaincu, je pense, la seule façon de se faire entendre.
Dans ces AG, les étudiants sont avec vous ou il y a vraiment deux comités de mobilisation différents ?
Non, moi je pense qu'on est vraiment avec eux. Enfin, après, c'est eux qui ont décidé de faire la grève, nous on dit pour rien ou quoi que ce soit, mais enfin, après on n'a pas vraiment notre mot à dire, je veux dire, s'ils veulent faire grève, on va les soutenir, hein. Vraiment on est avec eux.
Ça se passe comment du côté des étudiants en L1 ou autre ? Est-ce qu'il y en a qui ont peur pour leur année, d'autres qui soutiennent pas du tout les doctorants, les chargés de TD, qui disent voilà, vous pensez pas à nous, vous nous pénalisez, vous nous prenez en otage, comme on dit souvent ?
Bah, c'est un peu à double tranchant, quoi. Il y a des étudiants qui vont... Voilà, qui vont voir un peu leur ego et qui vont dire « Ah, mais c'est notre année, on va pas la voir, du coup... » Et il y a les autres qui disent « Bah non, mais à un moment donné, faut penser à eux aussi. » Il y a beaucoup moins de personnes qui pensent à leur ego.
Et donc toujours des newsletters de la fac sans parler de ce problème. Alors là, maintenant que Rue 89, comme tu l'as dit, Lucas, en a parlé, que c'était relayé par France 3, il y a les médias s'intéressent à l'Université de Bordeaux et à cette situation. Est-ce que ça va enfin changer ? Est-ce que vous percevez des troubles dans la force ?
Des troubles dans la force. Quelle force. Des troubles, pour l'instant, c'est assez difficile à dire. On va attendre un petit peu la constitution de notre groupe de travail la semaine prochaine. Là aussi, on a subordonné notre participation au groupe de travail à une représentation un peu plus étoffée que celle qui est offerte par la présidence. Sur l'aspect médiatique, c'est vrai que l'article de Rue 89 a été consulté un nombre de fois très élevé. Donc on verra l'écho qu'en donne l'université. Peut-être que dans la revue de presse de l'Université de Bordeaux, cet article apparaîtra. Après tout, ça concerne l'Université de Bordeaux. Donc s'il faut vraiment jouer la transparence là-dessus, ça devrait aussi contribuer à une plus large diffusion de cet article.
Lucas Bento de Carvalho et Marion Fauvel, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs, au personnel des universités de Bordeaux ?
Bien, si vous vous inscrivez à l'université de Bordeaux, il faut que vous sachiez que les charmantes personnes qui vous font des travaux dirigés sont très mal payées.
Ben merci beaucoup d'avoir fait le point sur la situation. Bon courage pour la suite, bon soutien et bonne chance.
Merci.
Merci.
C'était Univox Bordeaux, une émission réalisée par Léo Benelbaz et Nicolas Loubert. Univox.